On nous dit acheter français, tous nos produits sont importés. Le crêpe de Chine, les bergers allemands, les tissus écossais, les clés anglaises. Bon, vous me direz l'Angleterre, c'est l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est surtout l'Allemagne. C'est la réunification allemande qui m'a mis la Prusse à l'oreille. Depuis sa réunification, l'Allemagne va mal. Et quand l'Allemagne fédérale, l'Europe agonise.
Jean-Claude Duquesnoy dans ses œuvres. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Voilà, donc, allez, on va présenter ton parcours qui est impressionnant. Hein. Moi, je te connais depuis, on va dire, plus de.
Hein. Il y a beaucoup, oui.
Et donc, depuis ce temps-là, tu n'arrêtes pas de créer, de t'amuser avec des mots.
Bah, c'est un peu la marque de fabrique. J'ai toujours eu le plaisir de jongler avec les mots, de m'amuser avec la langue. Et ça donnait toute une série de spectacles. Aime le mot dit, le monde de mes mots. Enfin bref, toute une série de spectacles autour du langage.
Alors ce langage, il vit grâce aussi à tes mots que tu réexploites, que tu détournes, que tu contournes. Tu t'amuses beaucoup.
Ben, je m'amuse beaucoup. Alors la particularité, je dirais, de tous ces spectacles, c'est que sur le fond, c'est le jeu avec les mots, et sur les contenus, c'est rarement intemporel, c'est toujours très lié avec l'actualité. Ça, c'est la tradition chansonnière que j'ai chopée au Théâtre des Deux Ânes et au Caveau de la République pendant beaucoup de représentations que j'ai eu l'occasion de faire là-bas.
Voilà, et l'actualité est intarissable, comme toi d'ailleurs.
Ah bah oui, en ce moment c'est un peu compliqué avec l'actu. Ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent les hommes politiques sont plus comiques que les humoristes, ce qui fait que quand on arrive sur scène, on se demande ce qu'on peut encore faire de plus qu'eux.
Et donc l'occasion de les épingler aussi pour toi.
Oh bah on les allume un peu à longueur de journée, c'est un peu le travail fondamental du chansonnier.
Alors, les chansonniers, on peut rappeler un peu l'histoire des chansonniers dans la culture, on va dire, parisienne, par exemple.
Ben, le chansonnier, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas celui qui chante, mais celui qui chansonne, c'est-à-dire celui qui raille un petit peu l'actualité. Et donc, qui va toujours railler essentiellement les puissants. Ça aussi, c'est une particularité du chansonnier, c'est qu'il ne s'attaque qu'aux puissants.
Voilà, il, en fait, raille ce qui déraille.
Exactement.
Donc, ce mouvement des chansonniers qui avait lieu dans les années peut-être 60-70, mais peut-être avant déjà.
Oh, ça commençait bien avant. Par exemple, cette année, le spectacle du Théâtre des Deux Ânes où je travaille, Marinella, qui fête le jubilé, c'est-à-dire les 100 ans du théâtre. Ce théâtre a 100 ans. Mmh. Alors, il y a eu la grande période des chansonniers qui était juste pendant la Deuxième Guerre et après. On a tous les grands comme Paul Colline, René Dorin. Puis après, on a vu l'arrivée des gens comme Jean Amadou, Maurice Orgue, Anne-Marie Carrière, tous ces gens. Et puis, ça se prolonge encore aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des gens comme Bernard Mabille, Jacques Maillot, Pierre Douglas, qui est toujours vivant, et voilà.
Alors, c'est vrai que la richesse et le problème en même temps des chansonniers, c'est qu'ils créent avec le public une osmose, une forme de complicité qu'on ne peut pas retrouver sur un disque comme même celui-là. Certains propos peuvent paraître un petit peu décalés, voire un peu choquants, alors qu'en public, il y a une vraie complicité et on comprend le contexte aussi de ce qui a été dit.
Ben les chansonniers se présentent en général dans des salles de dimension moyenne. Le Théâtre des Deux Ânes, par exemple, c'est 300 places. Le Caveau de la République, qui était fermé il n'y a pas très longtemps, notre grand regret, c'était autour de 450-500 places. Ce sont toujours des espaces extrêmement limités, de manière à ce qu'il puisse y avoir un échange en direct. Le principe des chansonniers, c'est ce que disait Jean Rigaud. Le chansonnier arrive sur scène avec rien. Si tout passe bien, c'est grâce à lui. Si rien ne passe, il ne peut pas accuser la lumière, la régie et tout le contexte. Il est seul avec ses textes.
Voilà, on peut dire que le public est complice et participe au spectacle d'une certaine manière.
Oui, il y a un échange. C'est un lieu de proximité. C'est un échange, c'est un peu proche de ce qu'on appelait dans les années 70 le cabaret, en fait, c'est-à-dire quelque chose de très proche entre le public et l'artiste. Il n'y a pas cette distance et il n'y a surtout pas toute cette technique qui fait que on insiste plus sur l'emballage. Je sais bien que c'est la mode maintenant, même pour les chocolats, on fait une belle boîte, les chocolats sont pas toujours terribles. Il y a beaucoup de spectacles, c'est ça, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de... Alors tout ce qu'il y a autour, c'est fabuleux. Et si on enlève tout ça, bah, c'est le néant.
Donc, selon les soirs, on va dire les soirs, mais ça peut être peut-être le dimanche après-midi, pourquoi pas, on sent les ambiances différentes quand on est sur scène.
Oui, avec le dimanche, c'est très particulier. Le dimanche, surtout à Paris, au Théâtre des Deux Ânes, c'est ce qu'on appelait à l'époque les mamies Chirac, c'est-à-dire qui sont des personnes en général très âgées. La ville de Paris, et ça c'est plutôt une très bonne chose, leur donne des billets qui leur permettent, dans le cadre un peu d'aide sociale, pour leur permettre l'accès au spectacle. Et elles ne sont pas très habituées, donc quand même quand le spectacle a lieu à 15h30, à 14h30, il y a déjà une file devant la porte. Et ils ne savent pas toujours ce qu'ils vont voir. Une fois, on a eu un couple comme ça, un papy et une mamie qui sont arrivés dans le hall du théâtre, et le papy a fait « Qu'est-ce qu'on va voir ?» Et la mamie, elle a levé les yeux, elle a fait « Les charbonniers !» Voilà, c'est exactement ça. C'est très étonnant, mais c'est un public agréable.
J'ai une passion pour les contes de fées depuis un jour de Mardi Gras où j'étais la victime d'un conte à rebours. Affublé de ma tenue de prince charmant, je me rendais au bal masqué. Quand j'aperçois une princesse, digne du plus beau des rêves. J'invite la belle à danser, je lui pose la main sur l'épaule. En moins de temps qu'il n'en faut un loupard de banlieue pour dérober une mobilette, ma princesse se transforme en un immonde crapaud. J'ignore si quelqu'un parmi vous s'est déjà trouvé au milieu d'une piste de danse avec un crapaud autour du cou. Avant que je n'aie le temps de réagir, le crapaud me fixe dans les yeux, me dit « Mon prince, vous m'avez sauvé la vie. Il y a quelques mois, je vivais peinard dans l'étang d'un château quand un hareng m'a jeté un sort. Depuis, je suis la honte de mes congénères. Vous imaginez le ridicule d'un crapaud, un voile de mousseline, une capeline de chez Chanel ? Le premier moment de rejet passé, je me suis aperçu que l'homme et le crapaud avaient énormément de points communs. Moi, m'a dit le crapaud, quand j'étais petit, j'étais têtard. Je dis, quelle coïncidence. Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais tétard. J'ai tellement été tard que ma mère s'est longtemps demandé si j'étais dans les temps. Quelle coïncidence, me dit le crapaud. Moi aussi, ma mère se demandait si j'étais dans les temps. Elle craignait que je me sois égaré sur la berge. Oui, quand j'ai découvert les temps, j'avais 7-8 berges. Ma famille s'y installait pour les vacances. Mon oncle y montait 2 tentes. Une grande, avec 4 chambres pour inviter la famille, et une petite avec une moustiquaire pour éviter les cousins. Ainsi, durant 2 mois, je vivais au bord de l'étang, dans la plus grande des tentes. Quelle coïncidence, me dit le crapaud. Moi aussi, je vivais dans la plus grande des tentes, jusqu'au jour où ce maudit hareng. Vous connaissez la suite ? J'ai discuté jusqu'au petit matin avec celle qui fut un instant ma princesse de rêve, puis comme il était tard, je me suis dit qu'il était temps. On s'est séparés. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Avec le recul, je me demande ce que le crapaud amphibien. Depuis, quand je lis la presse à scandale, Transdimanche, Franchefoire, Ici Pourri, Point de vue et Images immondes, je me pose toujours la même question. Qui est Stéphanie de Monaco ? Une princesse de rêve ? Ou un crapaud déchu. Qui a gouverné la France durant 2 septennats ? François Mitterrand ou Kermit, son double télévisuel ? Le commandant Cousteau était-il un homme crapaud ? Et Chirac, l'autre pomme, n'est-il qu'une rainette ? À ce jeu du qui est qui, je parviens de plus en plus difficilement à discerner le vrai du fou, le clown du clone, le conte de fées du conte des fées. Le discours des hommes politiques me fait penser au coassement d'un marécage, infesté de centaines de crapauds et de dizaines de crapules. François Bayrou, la grenouille de Bénitier. Raymond Barre, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Dans un monde où la séduction prime sur la conviction, l'homme politique est devenu un conteur de charme, un homme à fable. Une fable à morale qui, compte tenu de la conjoncture et de la dénatalité, ne se termine jamais par « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ».
Jean-Claude Duquesnoy, donc un extrait d'un CD qui s'appelle « Aime le maudit ». Et donc, on va dire que ce répertoire qui est c'est très très large, il s'est peaufiné, on l'a vu à Avignon, on l'a vu un peu partout en France et aussi bien sûr dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Ben maintenant, ce spectacle en fait a été coupé en deux morceaux sous un titre générique duguesnois Persif les cygnes, avec d'un côté le spectacle Aime le mot dit, sous-titré Jeu de langue. Il s'agissait d'ailleurs des jeux de langue, ceux de Fritz et pas forcément ceux de Jack, mais enfin bref. Et l'autre qui s'appelle Le monde de mes mots.
Voilà, donc on peut peut-être, selon les saisons, te voir dans des lieux très différents.
Ben, Le monde de mes mots sera pris très prochainement à la ferme des Hirondelles. Alors, c'est le troisième week-end d'octobre, le samedi. Je n'ai plus exactement la date en tête, mais avec un calendrier, ça voilà, devrait pouvoir se voir. La ferme des Hirondelles, ça se trouve à Fretin. C'est le lieu qui a été créé par Ronnie Cooter.
Voilà donc Ronnie Cooter qui est une légende maintenant.
Oui, j'ai le plaisir de travailler avec son épouse depuis maintenant bien longtemps, dans différents spectacles. Duquesnoy cherche la petite bête, Le royaume des cons, et en création pour la sortie au mois de décembre, un spectacle qui s'appelle Et le charme, opéra.
Donc ce lieu, la ferme des Hirondelles, est un lieu, on va dire, dédié aux chansonniers, parfois au théâtre. Enfin, il y a toujours des animations qui sont dans ce lieu très chaleureux, on va dire.
Tous les vendredis, samedis, c'est un petit lieu de 70-80 places maximum, voilà, qui accueille des choses très différentes en fonction de chaque semaine. Ici, on aura donc bientôt donc, Le monde de mes mots, puis après ce sera Éloge de la bière, ce sera Duquesnoy cherche la petite bête, ce sera aussi des accueils de spectacles extérieurs. Voilà, ça alterne.
Alors, Éloge de la bière, qui est un spectacle de Ronnie Cooter.
Spectacle qui a été créé par Ronnie Cooter. Diane m'a donné ce texte et m'a demandé de passer d'une conférence biérologique, c'est-à-dire très technique, à un spectacle grand public sur la fabrication de la bière, non pas dans ses détails, mais plus dans ses traditions et dans son implication dans la vie locale.
Alors ce spectacle, Éloge de la bière, moi je l'ai vu à Douvrin, salle des fêtes de Douvrin, il y a plus de 10 ans maintenant.
Alors avec Ronnie toujours.
Absolument. Ah,
donc il y a bien une quinzaine d'années à ce moment-là, voilà. Avec Ronnie et Diane. Diane est toujours là et j'ai repris le rôle de Ronnie et réadapté en fonction des personnalités de chacun.
Est-ce que tu découvres encore des gens, des publics ?
Oh bah oui, parce que d'une part, parce que j'ai tendance à bouger beaucoup ici en un mois. Je me suis retrouvé près de Chartres la semaine dernière. J'étais à côté de Libourne, à Bonneville, en Dordogne. La semaine d'avant, c'était Limoges et Saint-Géniès qui étaient aussi en Dordogne. Et donc, je découvre quelquefois des lieux. Puis ce qui est intéressant dans ce métier, c'est justement de rencontrer des gens très différents. C'est de pouvoir passer... par expérience, un jour du Palais des Festivals à Cannes, le lendemain à la MJC de Bar-le-Duc, et de se retrouver le surlendemain au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye. Et donc d'être dans des contextes à la fois scéniques, mais aussi humains, totalement différents.
Est-ce qu'il y a des contextes, ou des salles, ou des publics plus compliqués que d'autres ?
Ce qui est compliqué quand on a que du texte, c'est les salles absolument énormes. Moi, je me souviens avoir fait avec la tournée des chansonniers une salle comme le Vinci à Tours, qui est une salle de 2000 places avec captation plus retransmission sur écran. Moi, je suis pas très à l'aise dans ce genre de choses. J'aime beaucoup les salles qui se situent entre 100 et 300 places, c'est-à-dire où il y a encore une relation humaine, où on voit les gens après, et pas forcément des captations où il faut faire attention à tout, au son, à la lumière, enfin, où on est plus... C'est pour ça que je préfère la scène de loin que la télé, par exemple, qui est beaucoup plus formatée, qui m'oblige à un contrôle... beaucoup plus important.
Alors Jean-Claude Duquesnoy, évidemment, tes spectacles sont écrits, mais il y a une part d'interprétation, on va dire, de liberté aussi.
Une certaine part de liberté, et pas dans tous les spectacles. Dans les spectacles comme Aime le maudit ou Le monde de mes mots, il y a d'une part des textes qui sont écrits au cordeau et je ne peux pas changer un mot. Et après, il y a tout ce qu'on appelle la revue d'actualité, des brèves d'actu, qui, elle, évolue en fonction, justement, du contexte. Et là, c'est un peu le parti des fouloirs. Par contre, dans les spectacles, en revanche, je prends l'exemple de ce qu'on est en train de créer, le charme opéra, plus je répète, plus j'essaye de me détacher, puisque c'est censé être un présentateur qui arrive là et qui ne connaît pas son sujet, je suis obligé de me détacher du texte pour donner l'apparence d'une improvisation ou d'un tâtonnement, ce qui n'est pas toujours très facile non plus, de partir du texte et d'arriver à s'en libérer.
Mesdames, messieurs, vous l'avez constaté, les sens et les cigarettes ont augmenté. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, le gouvernement n'y est pour rien. Quand tout va mal, c'est de la faute à la conjoncture, et la conjoncture... Je vous en ai déjà parlé. Mais c'est un problème de mémoire. Et quoi qu'on en dise, une mémoire, c'est pas extensible, hein. Prenez une mémoire vide, amnésie des connaissances, amnésie des souvenirs, vous verrez un jour, connaissances et souvenirs s'envoleront et l'amnésie s'installera. Mon premier trou de mémoire, c'était il y a quelques mois, au troisième texte, plus rien, le trou noir. Je tente de me reconcentrer, de revenir en arrière. C'est en faisant marche arrière que je suis tombé dedans. Oui, tomber dans un trou de mémoire n'est pas chose banale, en sortir n'est pas chose facile. C'est en tentant de soigner mon amnésie que j'ai rencontré Claude Lévi-Strauss, mon psychanalyste. Un drôle d'Oedipe, qui par sa présence prétendait me guérir de mes absences. Un conseil, quoi que vous ayez, évitez les psychanalystes. Si vous vous allongez sur leur divan, il y a peu de chances que vous en réchappiez. La visite se déroule toujours selon un rituel immuable. Tu t'allonges et tu dis vague, tu dis vague, tu dis vague. Et tu penses à la mer. Et lui, il t'écoute très cher. Moins il t'en dit, plus il te coûte cher. Il te laisse rêver et pendant que tu bâtis tes châteaux en Espagne, il ramasse les loyers. Je lui ai dit, docteur, ma mémoire n'est plus qu'une boîte vide, une boîte amnésique. Je tourne désespérément la manivelle, plus rien ne remonte à la surface. Mes souvenirs d'enfance s'envolent en fumée, mes souvenirs de vacances laissent place à une vacance de souvenirs. Il m'a dit, monsieur, votre mémoire prend l'eau, vous avez de la fuite dans les idées. Vous ouvrez votre clapet, mais rien ne sort, alors vous refoulez, vous refoulez, vous refoulez, plus vous refoulez, plus vous devenez siphonné. J'avais l'impression de me trouver dans un autre monde, à mi-route entre le cabinet médical et le magasin de sanitaire. Il ajoutait, si tout va mal, c'est de la faute à votre ego. Il vous faut entreprendre d'urgence une psychanalysation. La psychanalysation du tout à l'ego. Pendant des mois, j'ai suivi mes séances de confesseur-thérapie. En arrivant, j'avais perdu la mémoire. Au fil du temps, je perdais la raison. Je m'étais mis à boire. Je buvais comme un trou. Un trou de mémoire. Je buvais pour oublier. Pour oublier que j'étais amnésique. Je psycholais. C'est dans une galerie du Louvre que j'ai eu la révélation. Quoi de mieux, quand on ne peut plus voir son image, que de la dessiner en recréant son autoportrait. La peinture deviendrait mon chevalier servant, fatigué de broyer du noir, je décidais d'en voir de toutes les couleurs. Je me suis installé devant le miroir, et là je me suis peint et repeint, persuadé que c'est en me peignant que j'arriverai à me dépeindre. Plus je me peignais, plus je me dépeignais, plus je me dépeignais, plus j'apparaissais comme un être effacé. Depuis, je vais mieux. Je vais mieux, j'ai toujours pas retrouvé la mémoire, mais je vais mieux. Je ne m'en mêle plus les pinceaux, parfois même j'arrive à épater la galerie. Si un jour vous perdez contact avec la réalité, ne cherchez plus à la retrouver. Créez-la de nouveau. L'imagination, c'est ce qui reste quand on a tout oublié.